64 900 code matin, c'est 35 centimes l'unité. Et vos appels au 32 10, 50 centimes la minute.
Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend.
Nous sommes le samedi 2 août, toute l'actualité, un premier journal, il est 6h. Et le journal, c'est avec Chloé Geffroy. Bonjour Chloé.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
À la une, le footballeur Achraf Hakimi sous la menace d'un procès pour viol.
La justice a requis son renvoi devant la cour criminelle pour des faits de viol présumés que la star du PSG conteste. On fait le point dès le début de ce journal. Les éleveurs ovins de l'ouest de la France en alerte. Les cas de fièvre catarrhale explosent. Il faut vacciner en urgence, dit le ministère de l'Agriculture. Entre Donald Trump et la Russie, les ultimatums n'en finissent plus. Escalade sur escalade, Donald Trump déploie des sous-marins nucléaires. Et puis elle gâche la vie de certains habitants du sud de la France. Les punaises de colza bien trop envahissantes. Certaines personnes sont même obligées de vivre dans le noir en ce moment.
RTL Matin.
Nouvelle tempête judiciaire pour le joueur du PSG, Achraf Hakimi.
Le parquet de Nanterre a requis ce mercredi le renvoi du footballeur international marocain de 26 ans devant la cour criminelle pour des faits de viol présumés qu'il conteste fermement. Mourad Djabari, il est soupçonné d'avoir imposé un viol à une jeune femme chez lui en février 2023 près de Paris.
Oui, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils font connaissance. Après un mois de correspondance sur Instagram, la jeune femme de 24 ans se rend un vendredi soir au domicile de l'international marocain, veille d'un match d'un classico PSG-OM. À son arrivée, selon la jeune femme, Achraf Hakimi l'embrasse de force sur la bouche et sur les seins à travers ses vêtements. Elle proteste, mais le défenseur continue ses attouchements jusqu'à lui imposer un viol. Elle parvient tout de même à le repousser, puis quitte son domicile. Le soir même, elle se rend au commissariat, dénonce les faits mais ne porte pas plainte. Quelques mois plus tard, Achraf Hakimi est placé en garde à vue. Il est confronté à son accusatrice mais il nie toute agression ou viol. Maître Collin est l'avocate du joueur du PSG.
Achraf Hakimi est serein. Il est serein parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Pour nous, ces réquisitions sont non seulement incompréhensibles mais insensées. Encore une fois, non pas parce que je vous le dis ou que nous le pensons, mais au regard des éléments objectif du dossier de la procédure.
Achraf Hakimi dénonce une tentative de racket, une machination montée par son accusatrice à des fins financières. Dans cette affaire, le club parisien a toujours soutenu le joueur. Alors attention, ce n'est pour le moment que des réquisitions. C'est au juge d'instruction à présent de décider s'il y aura un procès pour viol ou non.
Les précisions de Mourad Djabari, le footballeur risque jusqu'à 15 ans de prison en cas de procès pour viol. On rappelle qu'à ce stade, il est toujours présumé innocent.
La Russie provoque, Donald Trump dégaine la menace nucléaire.
Le président américain a annoncé hier sur son réseau social Truth Social avoir ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans des zones, je cite, appropriées. Lubna Anaki, vous êtes l'une des correspondantes de RTL aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Lubna, c'est un énième ultimatum à Moscou en réponse à des propos jugés provocateurs de l'ancien président russe Dmitri Medvedev.
Oui, Donald Trump et Dmitri Medvedev s'affrontent par messages interposés sur les réseaux sociaux. Tout a commencé lorsque l'ancien président russe a qualifié de théâtral l'ultimatum fixé par le locataire de la Maison Blanche à Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a également fait référence à l'arsenal nucléaire russe et affirmé que chaque ultimatum était, je cite, un nouveau pas vers la guerre. Des propos qui forcément n'ont pas plu à Donald Trump. Habitué des clashs virtuels, le républicain a réagi sur son réseau social. Les mots comptent et peuvent avoir des conséquences, dit-il, parlant de propos idiots et incendiaires. Le président américain a donc ordonné l'envoi de 2 sous-marins nucléaires vers, je cite, des zones appropriées, sans donner plus de détails sur ces zones et sans préciser si ces sous-marins sont porteurs d'ogives ou pas. Cet épisode, en tout cas, marque la dernière escalade entre Washington et Moscou autour de la guerre en Ukraine.
Lubna Anaki, correspondante de RTL aux États-Unis. C'est le premier largage français dans la bande de Gaza. Hier, après 22 mois de guerre, 10 tonnes de vivres ont été parachutées dans l'enclave palestinienne. Méthode par ailleurs dénoncée par les ONG, les Nations Unies estiment que cela ne va pas résoudre la famine criante que connaissent 2 millions de Gazaouis. Depuis la fin du mois de mai, près de 1400 Palestiniens ont été tués alors qu'ils allaient chercher de la nourriture.
2000 foyers recensés en un mois, les cas de fièvre catarrhale ovine explosent, particulièrement dans l'ouest de la France.
Le ministère de l'Agriculture appelle les éleveurs à vacciner d'urgence pour ne pas reproduire le scénario catastrophe de l'an dernier. On a beaucoup parlé de la dermatose nodulaire qui touche les bovins ces derniers jours. Pierre Herbulot, c'est quoi exactement la fièvre catarrhale ?
C'est une maladie véhiculée par les mouches qui touchent les brebis. Les bêtes ont de brusques montées de fièvre, leurs organes sont touchés. Dans le meilleur des cas, la production de lait est affectée. Dans le pire, les bêtes meurent. Jusqu'à 15% des troupeaux sont décimés par la FCO qui dégrade également la fertilité des bêtes survivantes. Les mâles deviennent parfois stériles quand les femelles avortent. Très dur à long terme pour une filière qui vit à la fois du lait et de la viande de ces animaux.
Y a-t-il un moyen de lutter contre cette maladie ?
C'est une progression très rapide, mais elle reste concentrée sur la Bretagne, notamment le Morbihan et la Bourgogne. À titre de comparaison, entre août 2024 et juin 2025, près de 11 000 foyers ont été recensés, principalement au Pays Basque, dans le nord et l'est de la France.
Merci Pierre Herbulot.
Elles franchissent les portes, les fenêtres des maisons et s'agglutinent dans les bouches d'égout.
Les punaises de colza qui exaspèrent les habitants de plusieurs communes de Haute-Garonne depuis quelques jours. Elles ne représentent aucun danger pour l'homme, ni même pour l'environnement. Le problème, c'est qu'elles font leur loi. Un vrai calvaire, reportage de Patrick Tégéraud dans une maison construite en lisière d'un champ de colza à Pain-Justaret, c'est au sud de Toulouse.
Oui, elle pullule sûrement du fait de la canicule du début d'été. Alors, vendredi soir, Jean-François a découvert l'invasion d'insectes tellement minuscules qu'on les prendrait pour de mini-fourmis.
Quand je suis arrivé vendredi, j'ai vu que ça grouillait dans le jardin. J'ai ouvert le store et j'ai vu qu'il y avait plein de bestioles à l'intérieur. Qu'il a fallu donc de suite aspirer, hermétiser au maximum toutes les aérations.
Heureusement, les punaises du colza n'ont pas envahi les chambres à l'étage. Il a doublé tous les joints avec de l'adhésif.
Pour peu qu'il y ait un joint qui soit mal fait, vous essayez de passer, quoi. Là où vous voyez que vous n'avez pas mis le scotch, elle passe. Donc, vous dites, ben là, il faut hermétiser, hermétiser. Hein. Donc, voilà. Heureusement que j'en avais du scotch.
Quand on fait le tour de la maison, par contre, on marche dessus.
Ça grouille, bien sûr, par terre.
Vous le voyez. Là, sur le trottoir.
Ouais, sur le trottoir. Au niveau du garage. Et là, j'ai balayé ce matin, en fait. Et là, de nouveau, c'est revenu, quoi.
Là, c'est noir de bestioles.
Ouais, c'est noir de bestioles.
Mais tenez, j'en ai plein ma chemise.
Vous voyez ?
Elle pique.
Non, on peut pas dire, mais c'est désagréable.
On peut s'en protéger d'un coup de jet d'eau ou en pulvérisant du savon noir. Les spécialistes de la chambre d'agriculture assurent qu'elles disparaîtront aussi vite qu'elles sont arrivées d'ici quelques jours.
Le reportage de Patrick Tégéraud.
6h07 sur RTL, les mondiaux de natation de Singapour.
Jour de finale pour Maxime Grousset et une nouvelle chance de médaille pour le camp tricolore. Finale du 100 mètres papillon à 13h40. Le Français rêve d'un deuxième titre. Lui qui a été sacré lundi sur le 50 mètres papillon. Pour Léon Marchand, c'est jour de repos. À noter aussi la victoire hier de Johan Endoy-Brouard qui s'est de nouveau offert une médaille de bronze sur le 200 mètres d'eau. Le Savoyard pourra s'illustrer une dernière fois demain à l'occasion du relais 4 fois 100 mètres 4 nages en compagnie de Léon Marchand notamment. Et dans lequel, une épreuve dans laquelle les Bleus avaient pris une jolie troisième place l'été dernier lors des Jeux Olympiques. Et puis en cyclisme, Maëva Skiban remet le couvert, déjà victorieuse en solitaire à Amber jeudi. La coureuse bretonne a réitéré son exploit hier dans les rues de Chambéry. Deuxième victoire consécutive sur le Tour de France. Aucun Français n'y était parvenu depuis 34 ans, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.
Merci beaucoup Chloé Geffroy. On vous dit à tout à l'heure, 7h. Anthony Kazmarek, la météo, dites-nous tout. Le programme du jour.
Un programme qui s'annonce encore assez perturbé, notamment sur le quart nord-est. Un large quart nord-est ce matin. On a d'abord une perturbation qui traîne sur le pays. Ça donne un ciel très chargé avec quelques averses entre l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura, la Lorraine et l'Alsace. Ça va durer donc une grande partie de la matinée. Dans l'après-midi, cette perturbation va se disloquer. Vous allez retrouver quelques éclaircies et seule la Franche-Comté sera soumise aux averses parfois orageuses. Et puis on a des averses qui descendent aussi de Belgique. Résultat, votre ciel sera gris ce matin sur les Hauts-de-France et les Ardennes avec là encore des averses qui se dirigeront dans l'après-midi vers le Grand Est avec encore un caractère orageux près des frontières. Sur le reste de la moitié nord, un début de journée souvent ensoleillé, quelques nuages se développeront cet après-midi avec éventuellement 2-3 averses du bassin parisien jusqu'au Val-de-Loire. Mais près des côtes de la Manche et sur les côtes bretonnes, vous allez retrouver un plein soleil grâce aux brises qui vont se mettre à souffler. Et dans la moitié sud, au sud d'Ulnine qui va passer par Nantes, Bourges, Lyon, quelques nuages ce matin et rapidement, le soleil s'impose cet après-midi. Il restera juste un tout petit risque d'averses en montagne et c'est classique en été. Sur sur l'est des Pyrénées et sur le sud des Alpes. À noter le vent qui se renforce près de la Méditerranée avec un risque d'incendie élevé sur tout le littoral méditerranéen. Voilà pour le ciel.
Les températures.
Et bien sûr, la moitié nord, ça baisse encore et on est 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Seulement entre 9 et 14 degrés ce matin, ça n'est pas cher payé du tout. Au sud, c'est plus doux et cet après-midi, vous aurez 19 à peine à Charleville-Mézières, 21 à Lille, 23 à Paris et à Strasbourg. Dans le sud, c'est estival sans excès, 27 à Bordeaux, 28 à Toulouse, 29 degrés à Ajaccio et 31 à Perpignan et à Nîmes.
Merci Anthony Kazmarek, la météo chez vous, 64 900, avec le mot matin pour les SMS. Damien le Normand est déjà là, faites comme lui, écrivez-nous. Les courses, le quintet, c'est à Clairefontaine-Deauville, départ à 15h15. Alexandre de Kopman vous conseille de jouer le 12, le 4, le 3, le 10, le 2, le 8, le 11. L'outsider de RTL, c'est le numéro 10.
But as I'm getting old and wise, I have finally realized the world is warm, no need to be afraid.
We got nothing to lose, so everybody just do-do-do-do-do. We got nothing to prove, so everybody just don't say.
So don't you hesitate, just let it fly.
If everybody's bringing you down,
come on,
get yourself up off of the ground.
Get up,
'cause Yoda said there's no such thing as try.
C'est le groupe de pop funk américain Lawrence.
Et c'est le choix de la régie,
bah oui,
de Dani. Et c'est encore du très très bon. Bravo à Dani, bravo à la régie. Dans un instant, le tour de table de RTL Matin Weekend. C'est la région du matin, la Bretagne, le Morbihan plus précisément. Et puis avec Anthony, la playlist idéale quand on est coincé dans les bouchons. Il y a énormément de monde sur la route ce samedi. C'est noir selon Bison Futé, mais on est là, on vous accompagne.
Sur RTL avec Antoine Cavallero.
Chaque dimanche après-midi, partez à la découverte de nos régions en regardant Suivez le Guide avec Gîtes de France sur M6 et dès maintenant M6+.
RTL.
Renault.
Vous voulez passer à la voiture électrique, mais entre 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable, vous hésitez. Pour être sûr de ne pas vous tromper, choisissez Renault, le numéro 1. Numéro 1 des ventes de voitures électriques en France. Numéro 1 des ventes de voitures hybrides en France. Marque automobile favorite des Français.
Numéro 1 des ventes de véhicules électriques et hybrides de janvier à juin 2025, source 3 Adata. Baromètre Posternak IFOP, juin 2025. Voir Renault.fr. Renault, pensez à covoiturer.
Vous écoutez RTL ? RTL vous écoute.
Cet été, je vais avoir la chance de parcourir la France dans ma valise, des chaussures de marche, mes lunettes de soleil, sans oublier RTL pour continuer de vivre ensemble.
Vous êtes près de 20 millions à écouter RTL chaque mois. Merci. RTL Matin le week-end avec Antoine Cavallero.
Il est 6h13 sur RTL, nous poursuivons notre grand voyage. Chaque matin, une destination, une région qu'on explore avec Jean-Sébastien Petit-Demange, notre monsieur patrimoine. Aujourd'hui, c'est la Bretagne. Enfin, il a fallu se concentrer sur un département précis, sinon il y avait trop de choses à dire. Nous voilà donc, Jean-Seb, dans le Morbihan.
Et s'il avait fallu parler de la Bretagne, on remplaçait Flavie et Jimmy Mohamed.
Oui, et puis toutes les...
enfin, on faisait toute la journée.
Stop ou encore. Donc, on va se contenter du Morbihan. C'est peu de dire, en attendant, que la Bretagne est un territoire qui magnétise, qui envoûte tous ceux qui s'y rendent. La nature, là-bas, elle se donne en spectacle dans ce qu'elle a réussi à faire de plus beau. Il y a plusieurs centaines de kilomètres de côte, et on voit défiler là-bas des chaos rocheux, des immenses rubans de sable fin, des rias, des abers, des falaises vertigineuses, des criques secrètes, des caps téméraires. Le littoral breton, c'est une véritable dentelle, et le sentier de grande randonnée 34 qui reprend tout le sentier des douaniers, c'est plus de 2000 kilomètres, permet aux marcheurs de partir quand même pendant quelques mois si on a envie de faire tous ces chemins bretons. Alors on a donc l'Armor, le pays de la mer, et puis on a l'Argoat, le pays des bois, l'intérieur des terres qui compte des montagnes modestes, quelques bocages, des forêts, des vallées mystérieuses, parfois même magiques. Si on évoque la forêt de Brocéliande, forêt avec toutes les légendes arthuriennes. Il faut savoir que le Morbihan, c'est le seul département de France à porter un nom qui n'est pas en langue française. Morbihan, c'est la petite mer. Et quand on évoque le Morbihan, personnellement, moi, j'ai l'image du golfe du Morbihan qui apparaît. C'est une des plus belles baies du monde, un des plus beaux golfes qui soit, qui possède un ensemble de paysages d'une variété totalement impressionnante. Parce que le Morbihan, c'est avant tout une histoire d'eau. Rien de surprenant, ce golfe, il communique avec l'océan par un goulet étroit. À peine un kilomètre de large, entre Port-Navallo et Locmariaquéré. Et à chaque marée, ce sont 400 millions de mètres cubes d'eau qui rentrent et qui sortent par ce goulet. Vous imaginez le courant, la vitesse, la force. C'est 9, 10 nœuds, 17, 20 km heure, dans un sens comme dans l'autre. Faut donc pas se rater pour l'heure de la marée, pour entrer ou pour sortir. Et ce va-et-vient fait toute la beauté du lieu. C'est pour cela que les réalisateurs de cinéma ont adoré depuis toujours cet endroit qu'est le golfe du Morbihan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vedettes qui ont acheté des îles pour s'y reposer, pour s'y faire oublier. Et c'est un endroit absolument magique, avec Vannes au fond de ce golfe, qui est absolument magique. On va se balader sur tout ce littoral, Lorient, Carnac, Etel, Vannes. On va aller voir tout cela.
Merci Jean-Seb qui a donc fait Breton LV2. On constate ça ce matin. On va explorer le Morbihan et on sera en direct de Lorient également. C'est le coup d'envoi du festival interceltique. 1 million de personnes attendues sur 10 jours. On y sera avec Charles Guyard, le correspondant de RTL en Bretagne. Anthony, en ce week-end de chasse et croisée sur les routes, vous avez décidé de penser à tous les conducteurs qui seront bloqués dans les bouchons. L'un des moyens de rester zen, c'est d'écouter de la musique. Encore faut-il trouver la bonne.
Bah oui, et figurez-vous qu'il y a un sondage qui existe à ce sujet, réalisé par l'Institut OpinionWay pour la prévention routière. 140 titres de 10 styles différents ont été proposés aux sondés. L'enjeu, c'était de choisir le meilleur morceau pour atténuer le stress au volant et puis aussi pour améliorer la concentration. Alors, dans le top 20, on retrouve par exemple Born to be Alive de Patrick Hernandez, Ma philosophie d'Amel Bent, Staying Alive des Bee Gees. Bah oui, c'est toujours mieux de rester en vie, hein, effectivement, pour arriver à bon port. C'est mieux. Dans un style différent, le boléro de Ravel, et oui, Billie Jean de Michael Jackson, et en troisième position, ceci. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Indochine, j'ai demandé à la lune, première chanson française du classement d'ailleurs. Et en numéro 2, on retrouve
et Valérie qui ont voté.
Bah évidemment, Queen, Bohemian Rhapsody, titre légendaire qu'on chante ou pas à tue-tête, je vous laisse choisir, mais sans doute pas autant que le numéro 1. Woods, Hotel California, le morceau le plus apprécié pour rester zen dans les bouchons. Bon, j'ai parcouru toute la liste hein, des 140 titres, et mon préféré, il fête ses 40 ans cette année, il arrive en 4e position, 1985 donc, c'est Jean-Jacques Goldman, Je te donne.
Je te donne.
C'est pas mal quand même, hein. C'est tellement bien qu'on va l'écouter en entier, figurez.
Faites bien,
allez. Te donne Jean-Jacques Goldman, un titre qui fête ses 40 ans cette année pour que vous puissiez rester zen au volant et conduire en toute tranquillité.
Un classique sur RTL et le très bon choix d'Anthony Kaczmarek. Merci Anthony, bonne journée à tous et à Jean-Michel notamment qui nous écoute en Vendée, premier jour de vacances, footing en forêt à l'aube, RTL matin week-end dans les oreilles, c'est le bon choix. Vos messages, 64 900 avec le mot matin, il est 6h23.
RTL, l'été dans le rétro.
C'est la chronique qui nous fait voyager dans le temps. Christophe Bourreau revient sur une innovation qui a changé la vie des automobilistes. Et ce matin, notre spécialiste voiture nous emmène à bord des véhicules d'intervention de la gendarmerie.
À la fin des années 60, la star des voitures dans les gendarmeries, c'est elle.
Notre voiture, la R4 Renault.
Renault 4, la 4L, ce sera le modèle le plus utilisé par les gendarmes. Plus de 14 000 vont être commandés, car c'est une voiture robuste, économique et surtout l'une des seules à pouvoir accueillir un gendarme avec son képi. Seulement voilà, les autoroutes dans les années 70 se développent et les vitesses augmentent. La gendarmerie va donc changer de régime. Les chevaux sont lâchés et des brigades rapides d'intervention sont créées pour faire la chasse aux chauffards.
Grâce à deux pilotes sélectionnés et aptes à la conduite rapide acquise au circuit du Mans, la gendarmerie nationale est maintenant dotée de véhicules pouvant atteindre de très hautes vitesses.
Les gendarmes se tournent alors vers un petit bolide, 4 exemplaires seulement, et c'est justement à bord de l'un d'eux que nous avons le privilège de monter à mes côtés le major Christophe Deveau, qui commande un peloton motorisé dans la Sarthe et qui a longtemps été instructeur au centre de formation de la gendarmerie à Fontainebleau.
On est en présence d'une Matrajet de 1967. Hein. C'est en fait le premier véhicule rapide d'intervention. Ça roule à 200 km/h quand même, faut le savoir. Hein. Et donc, il roulait casqué, chemisette, culotte de cheval et bottes en cuir.
N'ayez aucune crainte, ces gentlemen de la route sont tous d'excellents conducteurs. Et seuls les meilleurs sont ensuite affectés sur autoroute.
Bottes aux pieds, casque sur la tête, les gendarmes ont fière allure, même si à l'intérieur, il n'y a pas de moyen de communication.
Cette voiture-là n'était pas équipée radio à l'époque. Hein. On est en 67, hein. C'est vraiment les débuts. Donc la Matrajet était à côté de la voiture, donc il y avait l'appareil de mesure de vitesse et les gars travaillaient de manière verbale. Ah, celle-là, elle est passée à telle vitesse. Eh bien, en fait, il y avait le gyrophare et le deux-tons, et le gendarme passait le bras par la portière, vite baissé, évidemment, et faisait signe au conducteur de s'arrêter. Et il disait, entre autres, il criait « Suivez-nous, suivez-nous !» Et il sortait le véhicule, donc en sécurité.
C'est alors que les appels de phare, une sirène et un geste impératif d'un gendarme vous contraignent à vous arrêter.
Passage éclair pour cette Alpha Jet, qui va ensuite laisser la place à la berlinette, la célèbre Alpine A110, plus moderne, plus rapide.
Lorsque vous apercevrez cette Alpine dans votre rétroviseur, il sera déjà trop tard si vous venez de commettre une infraction. Inutile d'essayer de la semer, c'est l'une des 20 Alpines de la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie.
De 6501, bien reçu. Nous dirigeons en direction de Lyon en vue d'intercepter le véhicule.
Alors, vous roulez à 160 à l'heure, vous restez toujours à gauche. Un coup, vous êtes à droite, un coup à gauche. Vous ne tenez pas à votre droite. Bon, monsieur, nous allons vous soumettre au contrôle de l'imprégnation alcoolique. Alors, considérez ceci comme un avertissement. Hein. Reposez-vous un moment, puis après...
Bon, ben, je vous remercie. Hein. Excusez-moi. Ah. Mais...
Au revoir, monsieur.
Merci.
Et la gendarmerie a ensuite fait évoluer d'autres bolides, de la Citroën SM à la Renault Mégane RS3, dont une vingtaine de véhicules circulent toujours sur les autoroutes françaises. Puis en 2022, retour de l'Alpine avec une version musclée de 255 chevaux.
Ça y est, c'est parti, et waouh, comme si on donnait un immense coup de pied dans la voiture qui file comme une bombe, 100 km/h, 110, 120, notre pilote est imperturbable, et moi je peux vous dire que j'en mène pas large.
Là, quand on vous entend, déjà ça inspire un peu la crainte, hein.
C'est ça. Ouais. En général, on se déplace pas pour rien.
Et aujourd'hui, particulièrement pour ce grand chassé-croisé, gare aux excès de vitesse, pas moins d'une quarantaine de bolides sillonnent nos routes, dont une dizaine d'Alpine en version ultra rapide, avec désormais 300 chevaux sous le capot.
Et oui, prudence, on ne vous le répétera jamais assez, c'est noir selon Bison Futé. On vous accompagne ce matin sur RTL Radio Guidage, dès le journal de 7h. L'été dans le rétro donc avec Christophe Bourou. Vous avez toutes les chroniques sur RTL.fr. Vos grosses textes, ça c'est vos grosses têtes, je vais y arriver parce que non, texte ça ne veut rien dire. C'est à partir de 15h30, tous les matins, un extrait. Voici une question de Laurent Ruquier.
Qu'est-ce qui à droite est toujours plus haut qu'à gauche?
Une couille.
Bien sûr.
Un testicule.
J'allais dire.
Bah oui. Bah, c'est une bonne réponse, gentil.
Je voudrais dire à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Spotify, remettez en arrière un petit peu, vous allez voir que c'est moi qui ai donné la bonne réponse.
Et vous en êtes fiers.
Allez,
oui, alors écoutez, si ça avait été effectivement la réponse Victor Hugo, par exemple, je comprends que vous la revendiquiez, mais pour avoir dit couille juste deux secondes avant Jean-Phi Janssen, il n'y a pas de quoi être fier, franchement.
Les grosses têtes, rendez-vous 15h30 sur RTL. Après les infos, il y aura une recette nippone. On poursuivra notre visite de la Bretagne. On va parler menhir et nous serons en direct de Lorient pour le festival interceltique. Et puis il y aura un portrait incontournable. On reviendra sur la carrière du boss Bruce Springsteen. Pour la météo, il y a un seul patron
Il s'appelle Anthony Kazmarek, on vous écoute.
Ah bah j'étais promu, dites donc, ça fait plaisir.
C'est vous le boss.
Alors c'est la fraîcheur qui domine ce matin sur la moitié nord. Alors fraîcheur par rapport au normal de saison. On a 10 degrés seulement à Blois et à Beauvais actuellement, 11 à Tours et à Rennes, 13 degrés à Lille et à Langres, 15 degrés à Paris. Au sud, c'est deux saisons avec souvent 15 à 20 degrés et 23 déjà du côté de Montpellier. Et cet après-midi, nous serons 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison pour un 2 août. Je vous rappelle que cette période de l'année, 15 juillet et 15 août, est censée être la plus chaude. Il manque donc quelques degrés par rapport à ces normales. 19 seulement à Charleville-Mézières, 21 à Brest et à Lille, 23 à Paris et à Strasbourg, tout comme à Dijon. Vous aurez 24 à Biarritz et à Grenoble cet après-midi, 25 degrés à Lyon, 27 à Bordeaux et à Nice, 28 à Toulouse et quand même 31 degrés du côté de Nîmes et de Perpignan. Dans le ciel, il y a encore des averses ce matin, notamment entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Jura, ainsi que de la Lorraine à l'Alsace. D'autres averses descendent par la frontière belge et on va les retrouver cet après-midi entre les Hauts-de-France, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Donc en partant de Lille jusqu'à Nancy, Strasbourg et Besançon, des averses qui seront parfois orageuses. Mais partout ailleurs, ce sera plutôt une journée ensoleillée, quelques passages nuageux quand même sur la moitié nord et très ensoleillé même sur toutes les plages de la Manche grâce aux brises qui vont se lever. Soleil que vous aurez aussi près de la Méditerranée avec du vent, le Mistral et la Tramontane qui renforcent le risque de feux de forêt, donc prudence.
Le kid du Pas-de-Calais, c'est Anthony Kazmarek. La météo chez vous, 64 900, code matin pour les SMS. Les réseaux sociaux de RTL Matin Weekend, Jean-Sébastien Petit de Manche travaille au montage de la vidéo ou la photo, je ne sais pas encore. Tout ça devrait arriver tout bientôt. RTL, c'est le bon choix, il est 6h30.
RTL Matin.
Soyez les bienvenus, toute l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Antoine et bonjour à tous. La route sera sûrement aussi chargée que votre coffre aujourd'hui. Samedi de chassé-croisé, classé noir dans le sens des départs, c'est rouge dans le sud-est dans le sens des retours. RTL vous accompagne sur le trajet des vacances et vous conseille. Piqûre de rappel avec Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Le premier conseil, c'est bien sûr la patience. Ça veut dire d'accepter tout simplement que la circulation va être un peu difficile et surtout de rester concentré. La circulation, elle peut se retrouver un peu en accordéon. Il faut rester attentif. Rester attentif, c'est essentiellement faire attention aux distances entre les véhicules. Vraiment mettre le téléphone en mode silencieux, ne pas se laisser déconcentrer par le téléphone. L'autre point fondamental, c'est d'accepter de ne pas se mettre absolument un horaire d'arrivée. Parce que c'est quand on a un horaire d'arrivée qu'on se met le plus de pression, le plus de stress, alors que de toute façon, on est prisonnier d'une circulation et il faut faire les choses avec sérénité et faire des pauses dès qu'on commence à lutter contre le sommeil, parce que ça, de toute façon, on gagne assez rarement dans la lutte contre le sommeil, donc vaut mieux s'arrêter, bien souffler et repartir plus serein.
Et on vous tiendra au courant de vos conditions de circulation sur RTL Radio Guidage à partir de 7h. La journée d'hier, pourtant annoncée plus calme, a déjà vu un pic de 955 km de bouchons cumulés. Alors pour les éviter, mais aussi pour tenir un budget vacances de plus en plus serré, certains, peut-être vous, ont trouvé la parade. Partir juste à côté de chez soi, et dans ces cas-là, c'est le camping qui a la cote. Vous l'avez constaté à celui du Passe-Temps à Bayon, tout près de Nancy, Dimitri Ramelot.
Déjà une semaine de vacances pour Daniel et sa femme et pas très envie de revenir chez eux à Essel et Nancy, à 30 km de là.
On habite dans une résidence et là on est à l'air. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Et on est bien, les voisins c'est sympa, on fait le barbecue, on paye 180 euros par mois, c'est pas non plus...
Ah oui, c'est des vacances très peu chères.
Ah oui.
Et s'il ne paye que 20 euros par jour pour son camping-car, l'argument n'a pas été que financier dans le choix de Thierry, venu de Moselle à 70 km.
On prend l'air.
C'est aussi efficace que si on partait loin ?
Moi, je vois pas la différence. À part le soleil, la chaleur, mais bon, moi, un petit 25-26 degrés, ça me suffit largement.
Et sur l'emplacement d'à côté, Christiane, qui a parcouru 25 km, a trouvé ici son bonheur. Les habituelles vacances à Palavas-les-Flots, terminées.
Il y a trop de bruit, il y a trop de monde.
Vous êtes là combien de temps ?
Oh, jusqu'à la fin août, déjà, on verra bien le temps.
Près d'un emplacement sur 5 est occupé par des vacanciers venus du département ou de la région. Et Quentin Janson, le gérant, est fier de pérenniser sa clientèle.
Il y en a qui habitent à moins de 2 km à vol d'oiseau. Je suis parti avec 20 et quelques habitués, on n'est pas loin de 30 là.
Et les locaux côtoient les vacanciers venus d'un peu plus loin, comme des Néerlandais ou des Allemands, qui eux aussi reviennent chaque année.
Et Dimitri Ramelot pour RTL. Et puis le très mauvais bilan des noyades cet été. Entre début juin et fin juillet, il y en a eu plus de 700, dont 193 mortels. Augmentation de 45% par rapport à la même période l'an dernier. Cela a même triplé en Bretagne. On y reviendra en détail dans le journal de 7 heures.
Cette question ce matin, y a-t-il d'autres très jeunes élèves victimes présumées d'une assistante maternelle dans l'Hérault?
Cette agente territoriale mise en examen pour viol et écrouée cette semaine. Pour l'instant, l'enquête se porte sur 9 enfants de 3 à 4 ans, tous scolarisés à Vic-la-Gardiole. Mais Valentin Larquier, on apprend que la suspecte était une employée de longue date.
Oui, la mairie de Montpellier nous confirme qu'elle a employé pendant 10 ans cette ATSEM entre 2014 et 2024. À ce stade, aucun signalement n'a été retrouvé sur cette période. Mais les services municipaux font des recherches sur son passé, sur son profil. Ils essaient de retrouver les écoles où elle a travaillé, notamment pour contacter les directrices. Cette ATSEM de 59 ans est ensuite arrivée à l'école de Vic-la-Gardiole au mois d'octobre 2024. C'est un village de 3500 habitants situé à 20 km de Montpellier. Selon le parquet, c'est dans cette école maternelle qu'elle est suspectée de viol et d'agression sexuelle. Elle aurait agi sur des enfants de 3 à 4 ans pendant les siestes ou dans les toilettes.
Les explications de Valentin Larquier pour RTL. L'employé d'une entreprise de BTP soupçonné d'un double assassinat dans son usine près de Dijon a été retrouvé mort hier, son corps découvert à quelques kilomètres du lieu du drame. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était en conflit avec les deux collègues qu'il a abattus par balles hier matin.
Il est 6h34, les premiers largages français d'aide humanitaire ont atterri hier dans la bande de Gaza.
10 des 40 tonnes promises par Paris ont été livrées, disait hier le Quai d'Orsay. Une goutte d'eau dans l'océan, un écran de fumée communicationnel, répondent les ONG. Le total de l'aide française, c'est 100 fois moins que ce dont a besoin la population civile. RTL a pu joindre Jean-Guy Watteau, le coordinateur de Médecins Sans Frontières à Gaza, est actuellement en territoire palestinien et pour lui, cette action est dérisoire.
Je rappelle que il y a 2 millions de personnes aujourd'hui à Gaza qui sont regroupées sur 45 km², l'équivalent de la ville de Compiègne. Donc prenez la ville de Compiègne, mettez-y 2 millions de personnes et ensuite larguez des palettes de 500 kilos en essayant de ne blesser personne. Vous comprendrez que c'est assez difficile. Des avions qui vont larguer de la nourriture, un dispositif potentiellement dangereux, extrêmement cher, totalement inutile. Aujourd'hui, ce qui va être largué correspond à 1% des besoins chaque jour de la bande de Gaza. Ces largages de nourriture, ceux de la France aussi, relèvent donc de la poudre aux yeux. L'avantage des largages de nourriture, il y en a un, c'est que aux endroits où c'est largué, l'armée israélienne soit n'est pas présente, soit a reçu les ordres de ne pas tirer dans la foule.
Et dans le sillage de la France, l'Italie assure qu'elle va limiter dès samedi prochain avec des largages également d'aide humanitaire. À Gaza, où il était en visite hier, l'émissaire de Donald Trump a quant à lui promis plus d'aide pour l'enclave palestinienne. Tension maximale entre les États-Unis et la Russie. Donald Trump a ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires. Une réponse, selon le président américain, à des propos, je cite, « idiots et incendiaires » de l'ancien président russe Medvedev. Il avait évoqué jeudi la « main morte » qui fait allusion à un ancien programme de l'Union soviétique pour prendre le contrôle de son arsenal nucléaire en cas de destruction de sa chaîne de commandement.
6h36.
RTL Sport.
Et d'abord, on prend la direction de Singapour pour les mondiaux de natation.
Et chez les femmes, tous les yeux sont tournés vers la nageuse star de ces mondiaux. Elle a 18 ans, elle est triple championne olympique à Paris l'an passé. Elle s'appelle Summer McIntosh. La Canadienne vise 5 médailles d'or à Singapour. Elle en a déjà 3 et compte bien en ajouter une quatrième cet après-midi sur 800 mètres. Et c'est en France d'ailleurs qu'elle a préparé ses championnats, Isabelle Langer.
C'est en effet à Antibes, avec Frédéric Vergnoux, que Summer McIntosh a passé ses 6 derniers mois. Damien Joly, le capitaine de l'équipe de France, a eu le privilège de la côtoyer.
Je suis impressionné parce que pour son jeune âge, son professionnalisme, son ouverture d'esprit, sa vision des courses.
Précoce, elle a gagné ses 2 premiers titres mondiaux à 15 ans à Singapour. McIntosh veut entrer dans la légende en décrochant 5 médailles d'or individuelles, comme l'avait fait par le passé son idole Michael Phelps. Et pour cela, elle se donne les moyens, comme l'a expérimenté Damien Joly.
Franchement, elle fait mal à la tête à l'entraînement, pas princesse du tout. Elle arrive, elle fait son échauffe, elle s'arrache tout le temps, elle fait des séries où j'avais du mal à la suivre. Donc, j'ai nagé quand même pas mal de filles qui étaient fortes à l'entraînement avec eux. Mais là, on est sur un niveau au-dessus, quoi. Elle nage comme les garçons et de voir ses résultats, je suis pas du tout étonné.
Pour aller au bout de son rêve à Singapour cet après-midi, McIntosh a certainement son plus gros défi à relever sur 800 mètres face à une autre légende de la natation, l'américaine Ledecky, 22 fois championne du monde.
Isabelle Langer pour RTL et du côté de nos Français, premier podium mondial. mondial hier pour Johan Ndoye-Brouard. Il finit en bronze sur le 100 mètres d'eau. Pas de médaille en revanche pour Léon Marchand et le relais 4 fois 200 mètres qui a terminé 6e. Aujourd'hui, Maxime Grousset est en finale du 100 mètres papillon. Il rêve d'un deuxième titre pendant ses championnats du monde. En cyclisme, coup double pour la Française Maëva Skiban au Tour de France Femmes. 2e victoire d'étape consécutive hier sur la 7e étape. Kim Lecourte, la Mauricienne, toujours en jaune, mais Pauline Ferrand-Prévot est juste derrière au classement général. Ça va se jouer ce week-end avec 2 étapes dans les Alpes. Les 2 dernières à commencer par aujourd'hui avec une arrivée au sommet du col de la Madeleine.
En football, ça s'agit sur le mercato pour nos clubs de Ligue 1.
Ouais, c'est comme sur la route, hein. La colonne départ des équipes françaises est bien remplie. La faute à des droits télé en chute libre. Les équipes se serrent la ceinture. Mais il y a un étonnant club d'irréductibles qui multiplie les investissements. C'est le Racing Club de Strasbourg. Déjà 87 millions d'euros dépensés cet été, à tel point que même les supporters ont du mal à suivre Yannick Collant.
Oui, le Racing Club de Strasbourg a clairement changé de dimension depuis qu'il appartient aux mêmes actionnaires que Chelsea, des investisseurs américains aux capacités financières démesurées. Déjà 10 recrues cette année, uniquement des jeunes joueurs prometteurs de moins de 23 ans, achetés à coût de millions d'euros. Alors parmi les nouvelles têtes, Joaquin Paniccelli, le meilleur buteur de la Ligue 2 espagnole, 16 millions. Matisse Amougou, un ancien espoir de Saint-Etienne, 12 millions. Soumaïla Koulibaly, défenseur de Dortmund, 7,5 millions. De jeunes joueurs peu connus du grand public, devant le stade de la Méno, les supporters strasbourgeois comme Aurélien et Stéphane ont un peu de mal à réaliser que leur club est devenu le plus dépensier de France.
C'est vrai que j'ai jamais vu Strasbourg dépenser autant, ça m'a quand même choqué, mais après on a pas dépensé beaucoup sur un gros joueur. C'est plus, je crois, on a 10 recrues.
C'est prometteur. Ça prouve que Strasbourg a changé d'envergure.
Et est-ce qu'on arrive à suivre tous les mouvements de joueurs?
Non. Il y en a encore un qui a signé hier, on sait pas trop d'où il sort, quoi.
Le dernier là, Piccellini, je crois.
Et son vrai nom c'est Paniccelli, comme quoi même les supporters alsaciens ont du mal à suivre la frénésie d'achat des propriétaires de Strasbourg.
Yannick Collant pour RTL. Une date annoncée hier pour Ligue 1 Plus, la chaîne de la LFP pour suivre le championnat de France de foot. Vous pourrez vous y abonner à partir du 11 août, soit 4 jours à peine avant la reprise de la saison. Saison que vous pourrez suivre gratuitement sur RTL.
Ça, c'est très bon de le rappeler. Merci beaucoup Victor Porchet. On vous retrouve à 7h30. Anthony. On va remercier Anthony de Péqueuse qui nous signale au 64 900 que ce titre sortait le 2 août 1988. Titre de Dwight Yoakam, grand chanteur de country. Buenas noches from a lonely room. C'est très sympa. Sympa. Merci beaucoup Anthony pour votre message. Et je tiens à vous le dire également, Anthony Kasmarek, dit donc.
Trop d'Anthony.
Anthony là. Didier a adoré votre playlist et notamment le Jean-Jacques Goldman. Il vous le fait savoir lui aussi au 64 900 code matin pour les SMS. Vous continuez de nous écrire. Il est 6h41.
RTL. On est sur une recette un peu provençale.
Allez, sel, piment, d'Espelette.
On ajoute de l'huile d'olive.
On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
Les recettes de l'été.
Et il n'y a pas d'heure pour penser au menu du jour, pour se donner des idées pour le déjeuner. On accueille Pierre Herbulot, bonjour.
Oui, le Racing Club de Strasbourg a clairement changé de dimension depuis.
Bonjour. Alors, Antoine. Après un séjour sur l'île Maurice la semaine dernière, vous nous faites voyager au Japon. Pas physiquement cette fois, mais avec une recette traditionnelle.
L'okonomiyaki, une grosse crêpe japonaise avec du chou, du poulpe et du lard grillé un peu caramélisé. Une spécialité d'Osaka, mais c'est à Antibes que je suis allé récupérer la recette auprès du chef Aurélien Véco qui dirige les cuisines du groupe hôtelier Belle Rive.
Et donc direction les Alpes-Maritimes pour la recette.
Bonjour Aurélien Véco.
Bonjour.
Alors on commence par quoi? C'est une base, une galette de chou en fait, hein, c'est ça?
On va démarrer avec le chou chinois, on taille un petit peu de chou chinois assez fin. Là, on va faire un petit peu de cébette.
Alors,
le poulpe, on va venir l'émincer assez fin.
Mais donc là, on a mis du poulpe, mais à la maison, on peut mettre des crevettes, on peut mettre un peu de lard aussi, c'est très bon.
Voilà, de la sèche aussi.
Ça peut être un plat de reste, en fait.
Ça peut être un plat de reste, oui.
On a tout rassemblé dans un petit saladier, hein, pour l'instant.
C'est ça, dans un petit cul de poule. Et on va venir râper un petit peu de gingembre. Là, on va venir casser 3 œufs. Et là, on vient mettre une petite cuillère de farine de riz. En fait, ça va bien faciliter le côté moelleux de la crêpe. Et donc, on est bien. Là, on va venir le mélanger.
L'œuf va aider à tout amalgamer, en fait. Hein.
C'est ça. Donc là, on va passer en cuisson. Donc, on fait chauffer une poêle.
Pour le coup, pas une poêle à crêpe. Il faut des bords un petit peu hauts parce qu'on va vouloir un peu d'épaisseur.
C'est ça. Un peu d'huile d'olive. Un peu comme une tortilla, en fait. Là, on va venir verser notre appareil.
Ah oui, ça colore bien en dessous, là.
Ouais. Faut que ça colore. C'est important.
Donc plutôt vite et fort.
Vite et fort, ouais. Mais là, on va la passer à environ 5 bonnes minutes à 180 degrés. Donc là, on vient de la mettre 5 bonnes minutes au four.
Ah oui, ça a coloré aussi un petit peu au-dessus. Gentiment.
Aussi. Là, on va la retourner.
Alors comment on fait pour retourner une crêpe aussi épaisse, parce qu'on va pas la sauter comme
voilà, tout simplement une assiette et on la retourne,
on plaque une assiette.
Voilà. On va la remettre un petit peu dans la poêle. Voilà.
Là vous appuyez dessus avec le bout de votre doigt, on sent que c'est rebondissant, c'est un peu moelleux.
Voilà. Donc prochaine étape, là on va venir mettre la mayonnaise japonaise et après moi j'en mets, mais tout le monde n'en met pas. Un petit peu d'oignon crispy caramélisé là.
Ah oui, ouais, j'aime bien. Apporter une petite texture, un petit goût aussi.
Donc on va venir la tailler en 4. Regardez.
Oh là là, c'est un peu à cœur, c'est encore un tout petit peu coulant.
C'est ça.
On va le goûter ?
Allez, on va le goûter, ouais.
Aurélien, on s'est installé en terrasse là pour goûter, tout simplement parce qu'on a une vue qui est quand même incroyable. On est face à la mer.
Face à la mer, à la baie de Golfe-Juan.
Qu'est-ce que c'est bon ? Oh là là. Ça croustille sur le dessus et sur le dessous. C'est complètement moelleux et fondant à l'intérieur.
C'est-à-dire que c'est très très addictif, hein, nous. Le chou qui est un petit peu croustillant, enfin croquant, on va dire.
Merci beaucoup Aurélien Véco pour cette recette japonaise. Alors pour le coup, on n'est pas sur une recette provençale, mais avec un joli poulpe de la région et on se régale de toute façon.
Exactement.
Merci.
Et le poulpe, c'est la vie. Le conseil du jour, Pierre.
Alors l'okonomiyaki, c'est un plat de reste par excellence. Quand vous avez votre base avec les œufs et la farine, vous pouvez y mettre ce qui traîne dans votre frigo, un reste de jambon, des crevettes, du poisson fumé, des légumes aussi un petit peu fatigués, voire des pâtes. Et oui, ils font comme ça à Hiroshima, dans le sud du Japon. Rien ne se jette en cuisine.
Rien ne se jette, tout se transforme. Merci beaucoup Pierre. Une recette à retrouver en détail sur rtl.fr. Pour les photos, rendez-vous sur le compte Instagram de Pierre Herbulot. À demain. Et dans un instant, on poursuit la visite du jour. Vous l'aurez reconnu, la Bretagne, le Morbihan. Jean-Sébastien Petit-Demange nous parle des menhirs. Et notre reporter RTL Fil Rouge, Charles Guyard, est en direct du Festival Interceltique de Lorient. C'était le coup d'envoi hier soir. C'est parti pour 10 jours de Bignou.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend.
Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Ce n'est pas du cinéma. Ce monstre existe vraiment. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Et pourtant, il est tellement plus facile à soigner qu'à regarder.
10 euros suffisent à sauver une vie. Pour que la maladie du Noma ne vole plus le visage des enfants. Donnez sur vaincre-noma.com.
Le meilleur dans Refait la télé.
Avec Jade et Eric Dussard.
Sur RTL, on refait la télé, même l'été. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour nos meilleurs moments de l'année avec
Antoine Decaune, Marie-Sophie Lacaro et Nathalie Saint-Cric.
Alors à tout à l'heure.
RTL Matin.
Avec Antoine Cavallero.
Dans moins de 10 minutes, il sera à 7h. Et à la une du journal, vos conditions de circulation. C'est le fait du jour, un samedi noir selon Bison Futé. Les juilletistes croisent les Aoussiens et ça donne des kilomètres de bouchons. RTL vous accompagne. On parlera aussi des noyades, bilan déjà dramatique en forte hausse, 193 morts depuis le 1er juin. Il y aura aussi le Proche-Orient, les premiers largages français d'aide humanitaire à Gaza. Et puis le sport, les mondiaux de natation. On attend Maxime Grousset aujourd'hui en finale du 100 mètres papillon.
Antoine Cavallero.
RTL Matin jusqu'à 9h15.
C'est notre mission cet été, vous faire voyager en écoutant la radio, vous donner des idées pour les vacances. Tous les matins, une nouvelle destination. Aujourd'hui, nous sommes en Bretagne, Jean-Sébastien Petit-Demange. Vous voulez vous concentrer sur le Morbihan, vous nous emmenez à Carnac et ses alignements de mégalithes.
C'est un des spots incontournables du Morbihan. Et ces alignements de mégalithes, c'est absolument incroyable. Men, c'est la pierre. Ir, c'est, ça veut dire long. Donc le menhir, c'est la pierre longue. Et avec les menhirs, les dolmens et autres mégalithes de Carnac, on plonge là dans la nuit des temps. Carnac est l'une des plus extraordinaires concentrations de mégalithes au monde, dont la renommée n'est plus à faire. On vient là-bas depuis des années, voire des siècles, pour découvrir cet endroit. Ces alignements forment un ensemble qui est vieux de 6000 ans. On est donc au néolithique. Le plus grand menhir de Bretagne actuellement debout, c'est le menhir de Kerlas. Il est dans le département d'à côté, dans le Finistère. Il mesure 9,50 m de haut. Et puis celui de Locmariaker, le fameux grand menhir brisé, faisait plus de 20 mètres. Et on a estimé son poids à 280 tonnes pour un monument érigé il y a plus de 6500 ans. C'est un truc qu'il faut quand même avoir en tête. En attendant, Carnac est un des premiers sites qui a été protégé par l'État, l'initiative de Prosper Mérimée, on est en 1830, et on compte pas moins de 4000 menhirs sur le site. Par l'architecture nouvelle qu'ils composent, par le monde imaginaire qu'ils évoquent, pendant longtemps, ce lieu était rempli de mystères, de légendes, de rumeurs. Quant à leur signification, il y a eu quelques hypothèses qui ont été avancées par des spécialistes. Le culte de la fécondité, lié à leur symbole phallique, la représentation d'une divinité, un lieu de cérémonie. Certains pensaient qu'ils obéissaient à une fonction cosmique liée au culte du soleil ou qu'ils définissaient un système de calendrier.
Mais on sait quoi aujourd'hui sur ce site?
On sait que les 35 000 mètres carrés de Carnac composent une architecture funéraire monumentale. En fait, une sorte de site de passage d'un monde à l'autre destiné à une personnalité. C'est la théorie qui prévaut le plus. Ce qui est sûr, c'est qu'Obélix, lui, n'a jamais taillé ni livré aucun menhir.
Pardon ?
Ça, c'est le 19e siècle qui a attribué aux Gaulois tout ce qui était avant.
Le roman national.
Voilà. Mais du coup, il y a une faille temporelle de presque 3000 ans quand même.
Ça fait pas mal.
Et dans Astérix et Obélix, il y a pas mal d'anachronismes dans ce goût-là. Aujourd'hui, c'est plus de 600 000 personnes qui viennent chaque année découvrir ce lieu. Il y a des visites guidées passionnantes, didactiques. Mais il y a nombre d'autres choses à découvrir. Par exemple, le site de Saint-Just à quelques kilomètres de Rennes, qui est bouleversant de beauté. Là aussi, il y a des alignements, il y a un chaos de rochers. Ça fait partie de la Bretagne, ses mégalithes, ses dolmens et ses menhirs.
Merci Jean-Seb pour la visite. On va partir à présent sur le terrain. Nous sommes en direct de Lorient. Hier, c'était le coup d'envoi du festival interceltique. C'est le plus grand rassemblement mondial celte. Bonjour Charles Guyard.
Bonjour Antoine.
C'est vous le reporter fil rouge de la matinale. Et donc on attend là 1 million de festivaliers, 1 million de personnes sur 10 jours.
Effectivement, et la grande question, évidemment, sur cette 54e édition d'un festival qui, contrairement au menhir de Carnac, n'est pas classé encore au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien, il faut s'habiller, il faut se plonger dans l'ambiance et s'habiller en circonstance. Eh bien, vous le savez, c'est enfiler ici un kilt. Eh bien, nous, on est donc allés aussi s'équiper.
Et on est avec devant un étal, en tout cas une boutique de kilt, boutique écossaise, un Clansman Kilt, ça s'appelle, avec Caro, vendeuse. Bonjour.
À la base, c'est pour les hommes, à la base même c'est pour les soldats. C'était un sac de couchage en fait. C'était des pans de 8 ou 10 mètres de long ou plus qui se dépliaient et qui servaient de couverture. Et ensuite, le soldat en question repliait son kilt comme un portefeuille pour en faire une jupe et partait au combat avec. C'était vraiment 2 en 1. Donc à la base, c'est vraiment plus masculin pour les hommes. Et après, c'est surtout depuis les années 70 que ça s'est décliné pour les femmes, pour trouver sa taille. Il faut essayer.
Alors, on va peut-être pas essayer, mais en tout cas, les regarder, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Il y en a des jaunes, il y en a des verts, il y en a des bleus. Il y a des significations particulières au niveau des couleurs.
Bien sûr. Il y a plus de 7000 tartans dans le monde.
Un tartan, on rappelle, c'est quoi?
Un tartan, c'est ce motif à carreaux. Donc on a des tartans très connus, ça c'est le Black Watch, bleu, vert foncé et noir. C'était un tartan militaire. Et ça, c'est le tartan Royal Stuart.
Donc, il est plus dans les teintes rouges.
Dans les teintes rouges, voilà. Ça, c'est souvent les gens, quand ils pensent motif écossais, ils vont avoir ça en tête.
Le budget pour un kilt, la ceinture, la bourse, c'est pas donné à tout le monde.
C'est pas donné à tout le monde. Après, donc nous, on a des produits faits en Écosse qui vont être un peu plus chers, mais on a également, on a pris le parti d'avoir quelques importations aussi pour permettre à des gens d'avoir accès à ce produit et de moins dépenser. Pour moins de 100 euros, on peut avoir un kilt et des chaussettes. Il faut compter 150 si on veut la ceinture en plus.
Ouais, ce qui fait un sacré budget. Merci beaucoup Charles Guyard en direct de Lorient pour RTL. On continue de vous parler des Bretons. C'est la destination du jour. 64-900 avec le mot matin pour partager avec nous des souvenirs, des projets de vacances. Vous posez toutes les questions. Jean-Sébastien Petit-Demange est là pour y répondre. C'est à suivre le portrait incontournable tournable du jour. On revient sur la carrière du boss Springsteen. C'est dans quelques secondes. Merci d'avoir choisi RTL Matin Weekend.
Passez un bel été et un bon week-end sur RTL avec Antoine Cavallero.
On vous ramène.
Mais c'est sûr, ils gonflent les prix à la rentrée.
Bah, dis donc, c'est toi qui es gonflé?
Non, chez Conforama, la rentrée, c'est à prix coûtant. Par exemple, le four Candy, c'est 157,97€. Prix coûtant. Ni plus, ni moins. Jusqu'au 25 août, conditions sur Conforama.fr.
Événement RTL.
C'était dans les années 50.
Nous allons maintenant jouer à notre Kitoutou.
En 2025, le Kitoutou-double revient sur RTL.
Et c'est moi, Alex Vizorek, qui vais reprendre le Kitoutou-double, le fameux jeu de culture générale qui revient sur RTL.
Pour gravir les marches, atteindre la 7e question et décrocher les 5000 euros, inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr ou envoyez un mail à kitoutou-double@rtl.fr.
kitoutou-double@rtl.fr.
Alex Vizorek doublera la mise à partir du lundi 25 août sur RTL.
Et ben moi aussi, ça m'a surpris, mais apparemment, c'est moi.
Et oui, on a envie de vous parler ce matin de Bruce Springsteen. Il a bouclé sa dernière tournée là, début juillet. C'était à Milan pour la dernière date. Montant des recettes, 729 millions de dollars. C'est un record pour le boss. Et voici son portrait incontournable par Charles Ducrot.
C'est l'un des plus gros succès de la rockstar américaine. Né pour courir, c'est aussi le titre que Bruce Springsteen a donné à son autobiographie. Depuis l'enfance, le rock lui colle à la peau. Adolescent, il monte son groupe de toujours, The E Street Band. Bruce organise, supervise, collecte l'argent à la fin des petits concerts dans les cafés de la ville. C'est lui, le boss. Ses amis du groupe l'appellent comme ça depuis le premier jour.
That's
20 juillet 1969, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Le E Street Band joue dans un bar, mais le public scrute l'alunissage de Neil Armstrong. Si quelqu'un n'éteint pas la télé, je me charge de la latter, braille un musicien. Les copains se font virer, se souvient Bruce dans son bouquin. Voilà qui donne déjà le ton d'une carrière tonitruante.
Oui, et Bruce Springsteen, ce sont 140 millions d'albums vendus dans le monde. Et donc Charles, des concerts, il en a donné des centaines.
Et à chaque fois, les shows durent près de 4 heures. Le boss est inarrêtable. Une énergie qu'il puise avec son équipe de toujours, comme il le raconte dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, c'était il y a 4 ans.
It is, you know, I mean, I've been with Steve.
Tu sais, je suis avec Steve, Gary, tous les autres depuis que j'ai 18, 19, 20, 21 ans. Donc vos relations sont très inhabituels. Le rock'n'roll est le seul métier au monde où... Imaginez ça, les gens avec qui vous étiez au lycée sont exactement les mêmes 50 ans plus tard. Ce sont les mêmes personnes. C'est pas étonnant que tant de groupes se séparent. Nous, on a donné la priorité à la vie et à l'esprit du groupe.
Une énergie qui a bien failli disparaître quand Bruce Springsteen tombe dans la dépression. Il en parle longuement dans son livre. Il perd l'inspiration, se dit à sec. Pendant près de 25 ans, il a dû suivre une psychanalyse. Régulièrement, les épisodes de son enfance ressurgissent. Son père violent et alcoolique. En 1984, le boss s'installe au sommet avec ce titre, Born in the USA, un verbe engagé, critique de l'Amérique en guerre au Vietnam. Il raconte les douleurs des vétérans. La même année, le républicain Ronald Reagan récupère la chanson pour sa campagne.
Il s'est servi de Born in the USA pour son discours. Les républicains ont récupéré tout ce qui est américain. Ma musique est de la musique américaine. Mais je trouvais que leur discours était destructeur.
Aujourd'hui, le boss continue de jouer Born in the USA, mais en acoustique, ne supportant plus d'entendre ce titre culte repris dans les campagnes républicaines encore aujourd'hui.
Et Bruce Springsteen d'ailleurs n'hésite pas à prendre position, Charles, de plus en plus, notamment contre Donald Trump.
Oui, et encore pendant la dernière présidentielle, Bruce apparaît dans son salon, accoudé à la table à manger. Dans un clip, il appelle à voter pour le camp démocrate derrière Kamala Harris.
Freedom, social justice.
La liberté et la justice sociale, l'égalité des chances, le droit d'aimer qui vous voulez. C'est tout ça qui rend l'Amérique plus grande. Donald Trump est le candidat le plus dangereux que j'ai vu de toute ma vie.
Sur scène, comme ici à Manchester en Angleterre, lors de sa dernière tournée, le boss fait mouche en visant le président américain.
Chez moi, l'Amérique que j'aime, l'Amérique sur laquelle j'écris et qui a été un phare d'espoir et de liberté pendant 250 ans, est actuellement entre les mains d'une administration corrompue et incompétente.
Une prise de parole qui a valu à Bruce Springsteen un torrent d'insultes de la part de Donald Trump. De cet engagement de fervent démocrate est née une amitié avec un autre président, Barack Obama. Depuis ce jour d'investiture à la Maison-Blanche en 2008, où Bruce Springsteen interprète The Rising pour le président élu.
Aujourd'hui, je retiens que je suis le président, mais qu'il est le boss.
À 75 ans, le boss, né pour courir, n'est pas prêt de lever le pied. Dans un récent entretien, il confie ne jamais vouloir prendre sa retraite et vouloir continuer de chanter, crier, danser sans relâche jusqu'à son dernier souffle.